affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour, bienvenue sur Canal Académie. La beauté se donne partout, pour peu qu'on se donne la peine de la chercher. La voici dans un soleil couchant, une statuette afghane, une marche de Berlioz, une formule mathématique, un acte héroïque ou bien un sourire d'enfant. Partout, elle dispense sa présence bienfaisante dans un monde qui connaît aussi la laideur et l'horreur. Voici la conviction d'Yves Quéré. Ce physicien, membre de l'Académie des sciences, vient de signer 24 ariettes sur la beauté, un chapitre pour chaque lettre de l'alphabet, de A comme admiration à Z comme Zanzibar. Bonjour Yves Quéré.
Bonjour.
Yves Quéré, vous souvenez-vous de votre première expérience de la beauté? C'était peut-être en écoutant Brahms au cours d'un exercice de mathématiques?
Ah, oui, vous avez raison, je cite ce cas pour parler des chocs. On peut découvrir la beauté lentement, raisonnablement, mais on peut la découvrir quelquefois par un choc qu'on reçoit. Et vous avez raison d'évoquer cette petite partie de ce livre où j'évoque un choc que j'ai eu et qui est resté en moi pratiquement indemne. 70 ans après, je le ressens encore. C'était en effet lié un petit peu aux mathématiques, c'est-à-dire que je revisais un contrôle de maths et j'étais très heureux de me promener dans un monde fait de raison, d'élégance, les droites, les perpendiculaires, le théorème des droites perpendiculaires, les cercles, etc. Et il y avait à côté de moi une radio, enfin une TSF à ce moment-là, c'était un véritable meuble, qui crachotait quelques sons tout à fait sans intérêt, que je n'écoutais même pas. Et puis tout d'un coup, j'ai été saisi violemment par ce qui arrivait à mes oreilles, c'était l'adagio mesto du trio avec cordes de Brahms. C'est un morceau absolument magnifique. Il y en a d'autres dans la musique, bien sûr. Et ce jour-là, c'était celui-là. Et en fait, tout d'un coup, mes droites, mes cercles sont partis loin. Et j'ai été saisi par ce monde. Je ne dirais pas par la musique. Ce n'était pas du tout la découverte d'un air musical, j'en connaissais beaucoup, mais je faisais de la musique déjà, ma mère était une excellente violoniste, on faisait de la musique de chambre déjà ensemble, mais c'était pas un air musical, c'était un autre monde, c'était quelque chose auquel je n'avais jamais pensé que ça puisse exister, c'était un au-delà des mots, un au-delà des pensées, et j'ai compris ce jour-là, tout d'un coup, et ça je m'en souviens très bien, qu'il y avait quelque chose qui était hors de moi, hors du monde, que j'allais en vivre, j'ai compris ça tout de suite, et que je ne saurais jamais en parler, ce qui est vrai d'ailleurs. On ne peut pas parler de la beauté, on peut tourner autour, mais on ne peut pas vraiment en parler, on ne sait pas très bien ce que c'est.
Vous aviez quel âge à ce moment-là?
J'avais 14 ans, je crois, je devais être en 3e seconde, quand on fait le théorème des trois perpendiculaires. Mais ça a été un des premiers grands chocs. J'avais notion de la beauté. Bien sûr, je savais dire le mot « c'est beau », ce qui est un mot un peu faux. On ne peut pas dire « c'est beau », on peut dire « je trouve que c'est beau », parce que la beauté est essentiellement subjective. Ce que je trouve beau, vous pouvez très bien ne pas le trouver beau, vous. Donc, « c'est beau » est un non-sens, d'une certaine façon. Mais je le disais à cette époque-là, j'avais 10 ans, 12 ans, et devant un paysage, devant peut-être déjà un morceau de musique que je trouvais beau, je disais « c'est beau ». La seule phrase possible à dire, c'est « je trouve que c'est beau ». Il me semble à moi que c'est beau.
Et vous avez cherché d'autres portes, d'autres moyens d'accéder à ce monde différent que vous avez découvert. Il y en a de nombreuses et vous proposez ces portes un peu comme dans une auberge espagnole, vous le dites dans votre livre, que vous nous invitez à pousser. Avec vous, nous allons peut-être commencer par votre région, la Meuse. Vous êtes née à Commercy. Vous y avez découvert de nombreuses beautés, celles de la nature en apprenant à nager dans la rivière, et puis aussi celles déjà de l'art. Peut-être que vous pourriez nous parler d'un sculpteur de la Renaissance qui est présent dans votre région, Ligier Richer.
Ah oui. Il n'est
auquel vous consacrez quelques lignes, qui n'est peut-être pas très connu, mais dont les œuvres sont magnifiques.
Il n'est pas très connu. Alors, en effet, je suis né à Commercy. J'y ai vécu jusqu'à mon baccalauréat, donc je connais bien la région. Et tout près de Commercy, à une quinzaine de kilomètres, il y a une petite ville qui est peu connue, on devrait la connaître beaucoup mieux, qui s'appelle Saint-Miel, qui est, un abréviatif de Saint-Michel, Saint-Miel. Et il y a là une abbatiale où se trouve un chef-d'œuvre absolu. C'est un groupe sculpté, ce n'est pas une sculpture d'un personnage seul, comme la Pietà à Rome, par exemple. Je cite la Pietà parce qu'on peut le mettre au même niveau d'art, de beauté. C'est un ensemble d'une dizaine de personnages qui représentent une mise au sépulcre. Donc il y a les personnages, le Christ mort porté par Nicodème, et puis Marie, et puis Jean à côté d'elle, et puis un personnage qui porte le linceul, un autre qui porte la couronne d'épines, et des soldats romains qui jouent au dé la tunique. Bref, il y a une douzaine de personnages, et c'est d'une beauté absolument inoubliable. C'est un grand, grand, grand nom de la sculpture, Ligier Richer, qui est un tout petit peu connu par une sculpture qui est à Bar-le-Duc, qui est un homme
le transi.
Qui tend son cœur vers le ciel. Et en effet, c'était un lieu où on emmenait tous nos amis qui venaient à Commercy, on les emmenait voir le sépulcre de Saint-Miel, qui mérite véritablement non pas le détour, mais le voyage.
Et ce voyage, vous l'avez poursuivi parce que dans vos pages, on découvre que vous avez écumé de nombreux pays. L'un d'eux a particulièrement retenu votre attention, c'est l'Italie, auquel vous consacrez un chapitre entier. L'Italie, c'est le lieu de la beauté par excellence.
Oui, comme vous disiez, y a les chapitres suivent l'alphabet, le I. J'ai dédié le I à Italie parce que je crois que quand on essaye, on fait tout le temps des classements maintenant, la meilleure université, la meilleure boulangerie, etc. Puis il y a le meilleur pays ou le plus beau. Je crois que si on s'amusait, c'est un jeu un peu absurde, mais si on voulait à tout prix répondre à cette question, quel est le plus beau pays, je n'hésiterais pas un instant et je dirais c'est l'Italie. Parce que l'Italie nous a fait des dons extraordinaires, celui de l'art de la Renaissance, celui de la science avec Galilée et puis bien d'autres. Mais surtout, parmi tous les pays auxquels on peut penser, l'Italie est un pays pacifique. Contrairement à tant d'autres pays qui ont été impérialistes, la France au premier rang, les États-Unis, la Belgique, etc., les Pays-Bas, l'Angleterre, l'Italie n'a jamais été, sauf un tout petit passage avec l'ineffable Mussolini, le César de Carnaval, comme on l'appelait. Mais oublions ça qui dure une décennie à peu près. L'Italie est un pays admirable, admirable par ses beautés naturelles, par ses beautés, la beauté de ses villes, la beauté de sa littérature, de sa musique, et puis ce don extraordinaire, je répète, de l'art et de la science et de l'humanisme. Donc pour moi, par comparaison, si je peux dire, si on voulait m'obliger à dire quel est le pays que je trouve le plus beau, je dirais qu'en effet, sans conteste, pour moi, ça serait l'Italie.
Vous citez d'autres exemples, par exemple cette vision d'un village russe sous la neige, découvert à l'occasion d'une halte ferroviaire. Et vous faites cette remarque que pour la beauté, on peut la voir, l'entendre, ce sont vraiment les sens associés à la beauté, et beaucoup moins, par exemple, le toucher.
Ah oui, c'est un peu... C'est comme ça, la beauté... Dans les dictionnaires, c'est essentiellement la vision, et on voit quelque chose qui est beau, c'est l'ouïe, c'est la musique, et puis c'est aussi la pensée. Et évidemment, les pensées peuvent être belles, j'en donne plusieurs exemples, mais ce n'est pas le toucher, ce n'est pas
le goût,
ce n'est pas le goût, ce n'est pas l'odeur, ça se limite à ce qu'on vient de dire. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que, au-delà, bien sûr, de la vie, de ce qu'on peut voir et de ce qu'on la sculpture, la peinture et de ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire la musique, il y a beaucoup de formes de la beauté qui se tiennent dans le courage, dans la lucidité, dans le charme d'un visage. Mais ça, c'est vrai que c'est la vue. Il y a en tout cas multiples formes de beauté qui nous entourent.
C'est l'un des aspects étonnants de votre livre, celui de mettre en avant certaines actions héroïques. Par exemple, je pense aux habitants de Saint-Jean-de-Luz qui ont porté secours aux naufragés portugais du Saint-Antonio, ou encore au personnage de Sakharov, auquel vous consacrez aussi quelques paragraphes. La beauté, elle est aussi dans une forme d'humanité qui donne le meilleur d'elle-même.
Oui, Saint-Jean-de-Luz, c'est une histoire très curieuse que j'ai lue très récemment et qui est un immense naufrage de toute une flotte portugaise qui est prise dans une tempête épouvantable qui aboutit vers l'Aquitaine et dont un vaisseau vient se fracasser devant Saint-Jean-de-Luz dans des conditions épouvantables. Et on voit les marins, je pense, de Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes au XVIIe siècle, 1600 et quelques. Les marins de Saint-Jean-de-Luz qui partent sur des noix de coco, enfin des petits bateaux de rien du tout, au secours de ce grand vaisseau qui vient de se fracasser quelques centaines de mètres plus loin dans l'océan. Et là, il y a une beauté extraordinaire. Ces marins, plusieurs se noient. Toute la population de Saint-Jean-de-Luz se réunit pour aider, sauver les naufragés. Enfin voilà un type de beauté auquel il faut que nous pensions, le courage des sauveteurs, par exemple. Sakharov, c'est autre chose, mais c'est très proche aussi. Sakharov est un homme que j'ai connu, qui est un grand, grand physicien russe. À l'époque, c'était soviétique. Et il a admirablement donné sa vie, la deuxième moitié de sa vie. La première moitié de sa vie a été une sorte de golden boy du monde soviétique, parce que c'était un grand physicien qui avait travaillé d'ailleurs à l'armement atomique. Et puis dans la deuxième moitié de sa vie, il s'est aperçu que le peuple russe était misérable, était coupé de la culture. Et il a dédié toute cette partie de sa vie au prix de sa santé, parce qu'il a été traité comme fou dans des hôpitaux psychiatriques. Au prix de sa santé, il s'est mis à défendre tout ce qui n'était pas lui. On peut défendre facilement ce qui est soi, mais il s'est mis à défendre non-juifs, les juifs poursuivis, ce qu'on appelait les réfusniks. Non-chrétiens, il a défendu les chrétiens. Non-baltes, il a défendu les baltes qui étaient menacés par le Kremlin. Non-arméniens, il s'est battu tant qu'il pouvait pour l'Arménie quand son propre pays, l'Union soviétique, encore Union soviétique pour quelques années, envahissait l'Arménie, etc., etc. Et là, nous voyons une autre forme de la beauté qui est la beauté intérieure d'un homme.
Et la gratuité.
Et la totale gratuité. Totale gratuité.
Nous reconnaissons le scientifique que vous êtes quand vous décrivez, par exemple, la beauté de la trajectoire d'une balle lors d'un match de football.
Oui, je ne suis pas personnellement, je ne regarde jamais les matchs de football. J'avais été impressionné, un petit peu étonné, quand on avait beaucoup parlé dans la presse et ailleurs, j'entendais parler de la beauté du coup franc de quelqu'un, Carlos, je ne sais plus son prénom. Et c'était en effet un coup de pied tout à fait extraordinaire, un coup franc, c'est-à-dire on tire le ballon de loin vers les buts, et aussitôt qu'il avait tapé dans le ballon, tout le monde s'était démobilisé parce que le ballon partait, on peut le voir sur la photo prise de dessus, à 4 mètres en dehors des buts français. C'était un Brésilien. Et puis, au dernier moment, le ballon avait suivi une courbe très bizarre et pouf, avait obliqué, si je peux dire, et était entré dans les buts français. Et on a beaucoup parlé de la beauté de ce coup franc. Et je comprends que la beauté d'un coup franc, en effet, on peut parler de la beauté quand on l'analyse dans ce cas mathématiquement. On a pu analyser cette trajectoire, se rendre compte qu'en fonction des conditions diverses, physiques, disons, d'une trajectoire d'un ballon, eh bien, cette trajectoire peut prendre des formes mathématiques curieuses. Et au fond, la beauté de ce coup franc, j'y crois. Je crois qu'en effet, ce coup franc était très beau parce qu'il était, au fond, qu'il était fabriqué avec des mathématiques. C'est-à-dire non seulement avec un coup de pied, mais avec une pensée humaine.
Vous racontez un autre choc esthétique, véritablement, que vous avez eu. C'était avec la physique quantique que vous comparez à une cathédrale.
Oui, en effet, ça c'est dans le chapitre que j'ai appelé « Choc » où se trouve déjà le Brahms dont on a parlé en début, quand on peut avoir des chocs qui vous bouleversent, qui vous transforment, je dirais d'une certaine façon. Et en effet, c'est un deuxième exemple. Là, je n'avais plus 14 ans, j'avais plus de 20 ans, et au hasard des études, tout d'un coup, j'ai découvert ce qu'on appelle la mécanique quantique, qui est une grande, grande partie de la physique contemporaine, peut-on dire. Et là, j'ai eu un choc extraordinaire parce que je croyais très naïvement, mes professeurs m'avaient dit jusque-là que finalement, nous avions fait, nous étudiants, à peu près le tour de la physique. Il y avait encore quelques décimales, comme on disait, supplémentaires à trouver, mais qu'après, on avait pratiquement fait le tour de la physique. Or, tout d'un coup, je découvre ce qui, pour moi, en effet, ressemblait à une cathédrale, c'est-à-dire le Porsche, qui était dans ce cas particulier, les particules élémentaires de la physique, et puis une grande nef, qui était l'algèbre linéaire, et puis le tabernacle où est caché le secret des mathématiques. Les mathématiques, qu'est-ce que c'est exactement les mathématiques? Est-ce que c'est quelque chose qui est dans l'univers depuis le début de l'univers, et que nous découvrons petit à petit? Ou est-ce que c'est une invention récente de l'homme? Récente, ça veut dire 2000, 3000 ans, quelques milliers d'années. Et il y a là une sorte de secret du statut des mathématiques. Et tout ça converge vers une immense aventure humaine qui est celle de la mécanique quantique, qui n'est pas finie, qui a commencé dans les années 20. Et pour moi, j'ai eu en effet un véritable choc à découvrir ce morceau de pensée de l'aventure humaine, littéralement.
Est-ce que vous pensez que l'émerveillement est une qualité du scientifique ?
L'émerveillement est une qualité. Alors, je ne sais pas si c'est une qualité du scientifique, mais je crois que c'est une qualité. Qu'est-ce que c'est une qualité ? Je crois que c'est au moins une qualité en ce sens que c'est pas très fréquent. On a tendance à voir très fort ce qui est mauvais, ce qui est mal, les défaillances du monde qui nous entoure. Et je crois que c'est un petit peu le but de ce petit livre, c'est de montrer que s'il y a de la beauté partout, nous venons d'en donner quelques exemples, eh bien, on peut, devant cette beauté, s'émerveiller. C'est-à-dire trouver qu'elle est merveilleuse. Alors, la science, en effet, mais il n'y a pas qu'elle. La science peut nous pousser à l'émerveillement d'une théorie physique, d'une théorie en biologie, évidemment des mathématiques. Je donne le théorème comme l'exemple ultime de la vérité, c'est-à-dire de la beauté, au sens de Boileau. Rien n'est beau que le vrai seul est aimable. La beauté suprême, peut-être. Je vais loin en disant ça, au-delà de la littérature, de la musique, etc., de la sculpture. C'est peut-être le théorème qui contient en lui une forme extrême de la vérité.
Vous consacrez tout un chapitre à l'enseignement. Vous êtes vous-même investi dans cette mission de la main à la pâte. Est-ce que c'est une façon de parler de la science, de plus mettre en valeur cette beauté ?
Oui, oui. La main à la pâte est le nom que Georges Charpak, malheureusement, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années, qui était prix Nobel. C'est le nom qu'a donné Georges Charpak à cette méthode, on peut dire, à cette façon d'enseigner la science, qui existait avant lui d'ailleurs, mais enfin il l'a mise sur le pavois de façon beaucoup plus visible, qui est qu'on fasse découvrir la science aux enfants quand ils la font, plutôt que simplement quand ils l'écoutent les bras croisés d'un maître qui leur dit des vérités de la science, mais auxquelles peut-être ils ne comprennent pas grand-chose. Tandis que s'ils font de la science, je crois qu'ils en découvrent la beauté. C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent que des événements très simples, comme de lâcher deux poids différents et de s'apercevoir qu'ils tombent en même temps par terre, il y a quelque chose de très étonnant et finalement de très beau. Eh bien, ils s'aperçoivent, ils le découvrent beaucoup mieux en le faisant qu'en le lisant sur un livre. Alors, je crois plus généralement, bien sûr, ça c'est l'enseignement de la science, mais beaucoup plus généralement, l'enseignement est un élément de la beauté de l'humanité. C'est certain que de transmettre tout ce que nous savons, tout ce que nous avons appris de nos ancêtres, comme une longue file, eh bien, pour moi, c'est un signe évident de la beauté.
Vous citez...
Qu'on retrouve aussi dans l'université, dans ce qui est l'université.
Vous donnez d'ailleurs en exemple le visage d'une petite fille, j'imagine l'une de vos élèves, qui découvre ce qui se passe dans une marguerite quand on la plonge dans un verre d'eau teintée en rouge.
Oh, ça, c'était extraordinaire. Ce n'était pas une de mes élèves. Je visitais une école à Chanteloup-les-Vignes, je peux dire très précisément. C'est une école maternelle, c'est-à-dire que cette petite fille avait 4 ou 5 ans. Et le maître, qui pratiquait justement ce que nous venons d'appeler la main à la pâte, appelle la petite fille et il y a 2 verres sur la table du maître, 2 verres d'eau, et il lui demande de verser quelques gouttes d'encre rouge dans l'un des 2 verres, pas dans l'autre. Donc évidemment, l'eau rougit un peu, rougit, oui. Et il lui demande de mettre 2 marguerites blanches dans les 2 verres. Et puis de regarder ce qui se passe. Il la refait revenir peut-être 5 minutes ou 10 minutes plus tard et il lui demande de regarder. Et la petite fille dit « Oh, celle-ci, dit-elle en montrant une des 2 marguerites, a rosi, car on a vu les pétales qui rosissaient. » Et la petite fille a une expression extraordinaire. Elle dit « Mais maître, d'habitude, l'eau, ça coule. » Elle voulait dire « Ça descend. » Et là, elle a tout d'un coup compris que l'eau montait et qu'elle découvrait en somme avec émerveillement. Je me rappelle ce visage effectivement merveilleux du sens de l'émerveillement de cette petite fille avec ses grands yeux qui découvrait au fond une miette de la vérité du monde. La capillarité qui fait monter l'eau, effectivement. Le maître a commenté, je passe sur la suite de la leçon qui a duré 1 heure sur la capillarité, c'était très beau. Mais le visage de cette petite fille était magnifique.
Vous donnez de nombreux exemples tirés des arts ou de la littérature et vous dites que la beauté n'est pas toujours la perfection, l'harmonie totale. Est-ce que vous pouvez en donner des exemples? Il peut y avoir une dissonance.
Oui. Il y a même plus qu'une dissonance quand on parle de la beauté du malheur. C'est-à-dire que nous trouvons de la beauté dans le tableau, par exemple, de Guernica. Comment pouvons-nous parler de beauté lorsqu'il s'agit d'un crime atroce et bien d'autres? Je pense à Goya, on peut en citer beaucoup. Et là, il y a une sorte de paradoxe. Est-ce que Guernica, est-ce que la toile Guernica est belle ou non? Et je crois qu'on peut dire évidemment que oui, et qu'on peut se demander comment est-ce possible. Et on peut, dans un premier temps, à tort évidemment, à mon avis, dire mais c'est là, c'est, voilà, on se sert de l'art pour effacer les laideurs du monde, pour les absoudre d'une certaine façon. Ce n'est pas du tout vrai. Je crois que la beauté est là pour, au contraire, amplifier notre vision du malheur. C'est-à-dire que, comme la beauté sait merveilleusement affiner notre regard au sens métaphysique, métaphorique du mot regard, eh bien, je crois que la beauté du tragique est là pour nous faire sentir le tragique et non pas du tout pour l'effacer.
Et cela change quelque chose dans notre façon de vivre?
Oui, certainement, parce que cela nous aide effectivement à voir le beau, paradoxalement, dans un certain nombre des laideurs du monde, et de ce s'il y en a en ce moment, mais dans le passé tout autant. Et en fait, je pense que, non pas pour absoudre, je répète, le mal, mais pour voir que finalement la beauté sort par, comme le dit Henri Kefelec, l'écrivain Henri Kefelec, sort de tous les pores de la nature. La beauté est partout. Nous ne savons pas très bien d'où elle vient, nous ne savons même pas la définir, comme on l'a dit au début, mais elle est là. Elle est là et elle, évidemment, nous aide à vivre.
À vous lire, on sent notamment dans votre conclusion que pour vous, il y a une sorte de symphonie du monde avec des éclats très, très dispersés, mais que malgré tous ces éclats de beauté, il y a une sorte d'unité d'ensemble.
Alors, c'est en effet une question à laquelle je suis bien incapable de répondre, mais j'ai en effet emprunté une réponse à Marc Aurèle, qu'il est merveilleux de lire. Il faut lire Marc Aurèle. Et Cicéron disait la même chose, il y a bien longtemps, devant la question de savoir si ces morceaux de beauté, nous venons d'en d'en évoquer plusieurs qui sont très différents. Si ces morceaux de beauté sont des morceaux dispersés, une sorte de, comme un vase cassé, un vase magnifique qui serait cassé, que nous ramassons les morceaux, ou bien s'il y aurait une unité. Nous ne pouvons rien démontrer en ce domaine, mais je reprends une phrase de Marc Aurèle qui répond à la question d'une façon très claire et qui dit en substance qu'il y a une beauté. Il y a le vase n'est pas cassé, il est quelque part, il est caché. La symphonie n'est pas, elle existe quelque part. Nous n'en entendons que des échos. Et pour eux deux, pour Marc Aurèle et pour Cicéron, mais je reprends volontiers leur idée, la beauté existe en elle-même, cachée, mystérieuse. La beauté est en fait un mystère.
C'est pour cela qu'après des décennies où vous étiez dit qu'il n'était pas possible de parler de la beauté, de la définir, de dire ce qu'elle était, vous êtes résolu à écrire sur la beauté ?
Oui, c'était un peu prétentieux. Ça peut sembler un peu prétentieux, bien sûr, mais je m'absous un peu en disant que je ne définis pas du tout la beauté, je n'ai pas cette prétention. Ce livre n'est pas du tout une sorte de traité d'esthétique, il ne revient pas à reprendre les idées de Platon sur la beauté, mais simplement à nous demander d'ouvrir nos yeux, au sens, je répète, mais métaphorique, de n'ouvrir nos yeux sur le monde en donnant, en effet, un certain nombre d'exemples que j'ai égrenés au cours de l'alphabet, puisque je commence par A, admiration, et puis B vient vite, après, avec beauté.
Et au pluriel.
Au pluriel, puisqu'il y en a beaucoup. Et voilà un petit peu l'ambition de ce livre. Elle est modeste, mais elle revient à faire état de, tout simplement, d'un certain nombre de chocs que j'ai eus. C'est le mot qu'on a utilisé tout à l'heure. D'ailleurs, le mot choc vient en troisième. Le chapitre choc vient en troisième position, bien sûr. Et voilà, voilà l'idée de ces quelques pages.
Et nous pourrions finir par la lettre Z, Zanzibar.
Zanzibar. Alors on pourrait se dire, oh, il a cherché longtemps un Z, puisqu'il fallait bien que j'ai un Z, mais pas du tout. Le mot Zanzibar m'est venu tout de suite pour la raison suivante, c'est que quand j'avais 10 ans, on m'a offert, pour mon anniversaire je crois, un globe. Et tous les soirs, je faisais tourner ce globe, il était lumineux, donc c'était formidable. J'apprenais des mots, c'est important les mots. Je termine, ce chapitre me permet en effet de terminer par l'importance des mots dans la beauté du monde, dans la beauté de l'humanité. Et alors le mot Zanzibar, je le voyais écrit, c'était un mot que je trouvais très beau, comme Chandernagor, comme Atacama, comme Amazonie, j'aimais ces mots, qui me semblaient musicalement très beaux, et Zanzibar me semblait magnifique, avec les deux premières voyelles, le Zanzi qui sont toutes douces, et puis le Bar qui explose, je trouvais ce mot extraordinaire. Et je trouvais ça très beau, et je m'imaginais quelque chose de magnifique. Puis récemment, il se trouve, je pensais à 10 ans évidemment, que je n'irai jamais à Zanzibar, ça va de soi. Et puis je suis allé à Zanzibar récemment et tout était contraire à ce que je pensais. En fait, Zanzibar, ce n'est pas très beau. C'est une ville pauvre. Ce n'est pas parce qu'elle est pauvre qu'elle est laide, mais elle est assez laide. Les campagnes sont mornes, les routes sont défoncées, les plantations sont mal tenues. Enfin bref, j'étais frappé par la complète antithèse entre la beauté du nom et puis les lieux, disons. Et alors, progressivement, le mot s'est mis à contaminer les lieux, c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même de la douceur, Zanzi, dans le visage des enfants, des femmes, et qu'il y avait de la violence, du bar, n'est-ce pas, dans l'évidente pauvreté, misère de ce peuple. Et je me suis rendu compte qu'au fond, les mots avaient une importance extraordinaire pour nous faire voir le monde et que Zanzibar donnait un bon exemple d'un mot curieux qui nous permet de comprendre qu'il y a de la beauté dans les mots et les mots nous aident à mieux connaître le monde, ça c'est évident, mais en tout cas à mieux en connaître la beauté.
Eh bien, un grand merci Yves Quéré par vos mots. Vous nous avez donné de goûter cette beauté. Je rappelle le titre de votre livre, De la beauté, 26 Ariettes. C'est donc de la lettre A à la lettre Z. C'est nourri de nombreuses lectures, mais aussi de toutes vos expériences au fil des années. Et ce livre est publié aux éditions Odile Jacob. À bientôt.
Merci.
Thank you.